L'histoire, Jean-Pierre Bemba est condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 000 euros. Tel est le verdict prononcé ce lundi par la Chambre de première instance 7 de la CPI. De son côté, le gouvernement congolais menace de quitter la Cour pénale internationale. Il affirme détenir des informations relatives aux interférences de certaines puissances sur les juges de la CPI dans certaines affaires concernant la RDC, pouvant avoir une incidence sur le processus électoral en cours. Quelle analyse faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Dieudonné Moinzé, il est député national honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, honorable Dieudonné Moinzé.
Bonsoir, monsieur Guimaté.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir, monsieur Yon.
Et professeur Jacques Joly, il est sénateur de l'opposition, inspecteur général du MLC. Bonsoir, professeur Jacques Joly.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale CPI en sigle a condamné ce lundi 17 septembre Jean-Pierre Bemba à un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 000 euros, indique un communiqué de la CPI. Ces déclarations de culpabilité et les acquittements concernant Jean-Pierre Bemba et les quatre autres accusés sont définitifs. Blaise Makassi pour les détails.
M. Kilolo et Mangenda ont chacun été condamnés à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Maître Mekilolo a également reçu une amende de 30 000 euros. La Chambre a ordonné que soit déduit de ces peines le temps déjà passé en détention sur ordre de la Cour et a considéré que les peines d'emprisonnement avaient été purgées. Les amendes seront versées à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de la décision et seront ensuite transférées au fonds au profit des victimes. Pour fixer les nouvelles peines, la Chambre de première instance 7 a tenu compte de l'annulation des déclarations de culpabilité pour une infraction et la prise en considération dans leur ensemble, les facteurs tels que la gravité des infractions dont les personnes condamnées ont été jugé responsable, les rôles désintéressés dans la tentative de faire échec à l'enquête ouverte concernant ces infractions, ainsi que leur degré de participation et d'intention respectifs. Rappelons que le 19 octobre 2016, Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Arido ont été déclarés coupables d'atteinte à l'administration de la justice pour avoir intentionnellement suborné des témoins et sollicité la présentation des faux témoignages par des témoins de la défense dans le cadre de l'autre affaire visant Jean-Pierre Bemba devant la CPI.
La République démocratique du Congo menace de se retirer de la Cour pénale internationale. Tel est le contenu d'un communiqué publié samedi dernier par le ministère des Affaires étrangères de la RDC. Blaise Makassi revient sur les motivations de cette décision.
Selon les ministères des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo, qui en son temps avait contribué significativement à l'élaboration du statut de Rome, portant création de la CPI et ensuite à la mise en œuvre de celle-ci, n'exclut point, en désespoir des causes, de s'en retirer. La diplomatie congolaise justifie cette décision par le fait que plusieurs indices concordants indiquent que certains gouvernements exerceraient des pressions sur des juges de la CPI visant la politique intérieure, voire des questions sous examen par devant cette institution même en relation avec la situation en République démocratique du Congo, susceptible d'avoir une incidence sur les processus électoraux en cours dans ce pays. Pour le ministère des Affaires étrangères, la propension à instrumentaliser cette juridiction internationale à des fins inavouées risque de saper sa crédibilité, alors qu'elle est censée être garante de la lutte contre les crimes internationaux qui révoltent la conscience universelle. Rappelons qu'en 2016, l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie avaient quitté la Cour pénale internationale. Ces États reprochaient à la CPI de ne poursuivre que les Africains depuis la création de cette juridiction, alors qu'il y a des crimes de guerre commis à travers le monde.
Merci à vous, Blaise Makassi, pour ces dossiers. Professeur Jacques Joly, sénateur de l'opposition, inspecteur général du MLC, Jean-Pierre Bemba est condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 000 euros. Et comment vous réagissez à cette décision de la CPI?
Mais c'est avec beaucoup de sérénité que nous avons suivi cette sentence de la Cour. Sérénité parce que d'abord, Jean-Pierre Bemba reste un homme libre, ce qui a été confirmé aujourd'hui par la Cour. contrairement à une demande forte qui a d'ailleurs été soulignée dans le jugement de Madame Ben Saouda, qui voulait absolument que Jean-Pierre Bemba soit condamné à la prison ferme pour 5 ans. Donc ça, c'est une grande première victoire. La deuxième victoire, c'est par rapport aux questions périphériques. La décision d'aujourd'hui confirme ce que nous avons toujours dit, que l'affaire Bemba est encore en prosecution, que ce n'est pas encore une affaire qui est devenue irrévocable. Il n'y a pas de jugement irrévocable. Nous sommes au premier degré, en première instance, et que les dossiers Bemba restent ouverts. Cette décision d'aujourd'hui, comme d'autres d'ailleurs sur la culpabilité, sont susceptibles d'appel devant la Cour et même de révision. Donc l'irrévocabilité qu'exige le droit congolais pour être privé de son droit, aujourd'hui on a montré qu'il n'y a pas de décision irrévocable. Voilà. Troisième élément, la condamnation de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui démontre ce que nous avons toujours dit, à savoir que Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour subornation des témoins et pas pour autre chose, contrairement à la décision qui a été prise par des instances administratives manifestement instrumentalisées et par la Cour constitutionnelle qui a étonné plus d'un dans une digression juridique où on confond par l'analogie la corruption et la subornation des témoins. Tous ces éléments nous poussent à dire que la décision qui privait Jean-Pierre Bemba de son droit d'être choisi par les Congolais, c'était une décision manifestement politique, de peur, et que Jean-Pierre Bemba, à travers ses jugements d'aujourd'hui, conserve tous ses droits pour être candidat aux élections présidentielles de la République démocratique du Congo.
Oui, donc, professeur Jacques Julie.
Voilà ce que nous pouvons dire en liminaire de ce qui a été fait aujourd'hui. Donc nous sommes sereins et nous croyons que le droit a été dit et va encore être dit, contrairement aux manipulations qui se font les uns les autres, dont l'agitation ne peut que traduire cet état d'esprit malveillant.
Alors, vous dites que cette condamnation démontre que Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour subornation des témoins et pas pour autre chose. Et donc, vous voulez dire que, contrairement à ce que la Cour a dit, que Jean-Pierre Bemba a été condamné pour corruption, cela n'est pas vrai.
Ça ne peut que ne pas être vrai. C'est une hérésie juridique. Il est quand même étonnant qu'une haute juridiction comme celle-là puisse se saisir d'une décision judiciaire d'une instance internationale. Cette instance a qualifié, et Dieu seul sait quelle est l'importance de la qualification, de la disqualification, de la réqualification en droit pénal. Une qualification qui est faite par une instance internationale, et voilà que le juge constitutionnel, en train de farfouiller dans un arrêt qui n'est pas le sien, pour chercher des faits, pour réqualifier, en fait, pour réjuger Bemba. Et c'est ça, la gravité, et qui démontre et qui désocle toute la science juridique pénale que nous essayons patiemment de donner aux enfants qui ne comprennent plus rien. Mais, hélas, lorsque la politique entre au prétoire, eh bien, le droit sort. Et malheureusement, ça laisse des traces, et des traces indélébiles sur l'image de notre justice.
Professeur Jacques Joly, l'émission est aussi pédagogique. Et si la Cour avait acquitté Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, ça aurait changé quoi, n'est-ce pas, à la décision de la Cour constitutionnelle?
Mais, comme je vous l'ai dit, nous sommes ici devant deux architectures juridiques qui, sans s'enchevêtrer, sont totalement indépendantes. Mais ces deux architectures doivent se respecter. Elles sont complémentaires et surtout basées sur le même principe de fonctionnement du système pénal. En d'autres termes, lorsque la Cour pénale internationale est déjà dans une affaire, on dit non bis in idem. C'est un principe qui est proclamé à l'article 23 du Statut de Rome. Et la Cour a pris une décision, un arrêt. Elle dit, je poursuis M. Bemba et je le condamne pour subornation. Mais voilà que le juge congolais qui fait irruption, il dit non. J'ai vu dans cet acte-là des éléments de corruption, de fait, alors moi je le requalifie. Donc il entre dans une matière qui est du domaine du droit international, dans un arrêt d'une juridiction internationale, pour requalifier cet arrêt, pour reconsidérer.
Merci, professeur.
Et dire, moi, je considère ça comme la corruption, eh bien, je te condamne maintenant pour corruption. Mais quelle normalité juridique ?
Merci, professeur, nous allons vous redonner la parole.
Normalité juridique ?
Merci, nous allons vous redonner la parole, professeur Dieudonné Mwenze, député national honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous réagissez à la décision de la CPI confirmant la peine de 12 mois d'emprisonnement et les paiements de 300 000 euros à l'endroit de Jean-Pierre Bemba?
Monsieur Guy Maté, je voudrais d'abord saluer les deux professeurs qui sont dans cette émission avec nous. Mais contrairement à ce que j'ai entendu du professeur Ndjoli, qui déclare qu'il est serein et il constate que c'est une victoire, mais moi je voudrais dire que la décision qui est tombée aujourd'hui doit être considérée à la fois comme une satisfaction, mais aussi comme une déception. Une satisfaction par le fait qu'il s'agit quand même d'un Congolais qui au départ devait être condamné selon les réquisitoires à 5 ans à peu près d'emprisonnement. Aujourd'hui, on nous parle d'une année avec paiement de 300 000 euros. Je crois que c'est quand même une satisfaction, mais aussi une déception puisqu'il s'agit quand même d'un Congolais qui a passé plus de 10 ans à la CPI en prison. Et après plus de 10 ans, on viendra dire que pour le crime principal ou l'infraction principale, le monsieur est acquitté, le Congolais est acquitté. Ici, nous parlons comme Congolais, contrairement à ce que nous entendons dans les médias, car la majorité présidentielle, les gens ne veulent pas de ceci, de cela. Non, nous compatissons. Après plus de 10 ans, on vient dire que non, le monsieur est acquitté et qu'il doit rentrer. Et puis finalement, on reste avec une affaire auxiliaire ou accessoire pour dire, bon, on va le condamner, on le condamne à une année ou à 12 mois. Et finalement, ils se rendent compte qu'une année ou 12 mois, c'est rien par rapport à 10 ans. Et ils se disent, bon, ok, c'est décompté, il peut rester en liberté. Et est-ce que ça, on peut dire qu'on est serein et on peut recevoir une telle décision avec sérénité ou avec victoire? Non, je ne pense pas. Mais je suis en train de regretter par le fait que dans les propos tout à l'heure du professeur Ndjoli, nous nous replongeons dans un débat dépassé. Le débat des décisions de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Je crois que je n'ai pas de leçons à donner au professeur de droit qui est le professeur Ndjoli, mais je voudrais qu'il lise ne fût-ce que la Constitution en son article 168 qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers comme M. Jean-Pierre Bemba, comme le professeur Ndjoli. Donc nous ne pouvons pas faire un débat sur une décision qui a été rendue par la Cour. Je crois que c'est... Nous pouvons encore réfléchir peut-être comme des scientifiques.
Mais cette décision
est obligatoire et exécutoire.
Le professeur Jacques Joly affirme que la Cour constitutionnelle est allée chercher des infractions qui n'existaient pas, n'est-ce pas, dans la décision concernant Jean-Pierre Bemba, la décision de la CPI.
Non, je voudrais d'abord me rassurer si le professeur Joly a réellement lu, d'abord comme scientifique, l'arrêt de la Cour. Puisque s'il a lu l'arrêt de la Cour comme politique, certainement qu'il ne va pas avoir un avis objectif. Mais s'il a lu ça comme un scientifique, il va nécessairement avoir un avis objectif qui est en principe cet avis de haut juge, de haut magistrat de la Cour constitutionnelle. Je voudrais, s'il vous plaît, monsieur Guimati, comme vous avez dit, une émission à la fois pédagogique pour les auditeurs. Lorsque nous parcourons le petit Robert, ne fût-ce que la définition simple de ce qu'on appelle corruption. On dit que la corruption, c'est une action de détourner quelqu'un de son devoir pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur, moyennant les finances, un bien matériel ou immatériel. Mais la subornation, c'est quoi? La subornation, c'est l'action par laquelle on amène quelqu'un à faire quelque chose contre son devoir. Donc vous vous rendez compte que dans les deux, on amène toujours une personne qu'on peut appeler témoin pour poser un acte qui est contraire à l'honneur et qui est contraire à son devoir. Je crois que nous sommes dans cette situation-là. Et je voudrais rappeler...
Est-ce que vous ne pensez pas que le problème du MLC, c'est le fait que le concept de corruption n'est pas contenu, n'est-ce pas, dans la condamnation de la CPI?
Mais c'est pour cela que je voudrais ramener le professeur Ndjoli à lire le livre de M. Georges Mienur, et qui est en principe le premier commentateur du code pénal congolais, et qu'on appelle même père du droit pénal congolais, et l'auteur de cet ouvrage incontesté et qui est reconnu par tous, que l'on appelle commentaire du code pénal congolais, et dit clairement que la subornation est une infraction de corruption. Et le commentateur va même jusqu'à très loin pour dire que la subornation des témoins est la corruption exercée sur une personne pour la déterminer à faire une déposition contraire à la vérité. C'est un axe de participation par provocation au faux témoignage. Et lorsque vous allez dans l'article 70 du statut de Rome qui règle cette question avec la CPI, il apparaît clairement et de manière évidente que la subornation des témoins est une forme de la corruption.
Honorable, vous venez de dire, n'est-ce pas, que la majorité est compatible à ce qui vient d'arriver à Jean-Pierre Bemba, mais il faut reconnaître que sur le plan politique, cette décision devrait arranger les adversaires politiques de Jean-Pierre Bemba.
Oui, mais que voulez-vous, politiquement, ça arrive lorsque l'on se retrouve dans une course politique et qu'il y a un adversaire politique par ses faiblesses propres se retrouve en dehors de la course. Effectivement, ça doit profiter à ceux qui restent dans la course. Mais là, je vous parlais d'abord comme Congolais. Et je crois que le prof Ndjoli va aller jusqu'à très loin pour comprendre que même cet article qui modifiait l'article, je voudrais parler de l'article 2 de la loi numéro 05/006 du 9 mars 2005, qui modifiait l'article 129 du code pénal, il est dit clairement ceci, que la subornation des témoins comme une circonstance aggravante de la corruption passive ou active. C'est donc un élément constitutif de la corruption passive ou active aggravée. La circonstance aggravante de la subornation des témoins fait partie de la corruption passive ou active et la grave.
Alors, comment vous comprenez le fait que la CPI, en dépit de tous les débats qu'il y a autour de ces concepts, comment vous comprenez que la CPI préfère utiliser les concepts subornation et pas corruption?
Non, mais je voudrais vous dire simplement que, M. Guimaté, la rémunération d'un avocat, c'est la même chose que la rémunération d'un policier ou d'un militaire. C'est la même chose que la rémunération d'un médecin. C'est la même chose que la rémunération, par exemple, d'un député national ou d'un parlementaire. Mais ça ne s'appelle pas de la même manière. Lorsqu'il s'agit de militaires, on parle de soldes. Lorsqu'il s'agit des avocats, on parle d'honoraires ou médecins. Et lorsqu'il s'agit des députés, on parle des émoluments. En d'autres termes, il s'agit simplement d'une rémunération. Je crois que nous ne pouvons pas rester sur le débat des terminologies. Mais il faut aller dans le débat le plus profond qui montre, à partir des hauts juges de la Cour constitutionnelle, qu'il y a une similitude entre la corruption et la subornation des témoins, voilà. Même si la corruption faite auprès de témoins s'appelle subornation. Mais voilà. Il s'agit d'une corruption.
Lorsque le gouvernement congolais menace de quitter la CPI au motif qu'il détient des informations relatives aux interférences de certaines puissances sur les juges de la CPI dans certaines affaires concernant la RDC, pouvant même avoir une incidence sur le processus électoral en cours, il ne s'agit pas notamment de cette affaire Jean-Pierre Bemba contre les procureurs de la CPI?
Non, pas nécessairement. Vous savez que le gouvernement congolais détient beaucoup d'informations par rapport au fonctionnement de cette cour internationale. Rappelez-vous qu'il n'y a
pas. Parmi lesquelles celles concernant Jean-Pierre Bemba.
Oui, oui, oui. Mais rappelez-vous qu'avant l'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour l'affaire principale, Herman Cohen, qui est cet ambassadeur américain, avait écrit carrément une lettre en termes d'injonction adressée à la CPI pour qu'on puisse acquitter M. Jean-Pierre Bemba. Et quelques jours après, c'est ce que nous avons vécu. Donc nous avons beaucoup d'informations.
Donc cette même décision, cette décision de la CPI arrangerait les gouvernements.
Non, je crois que nous sommes dans cette logique où, en tant que pays indépendant, nous pouvons agir aussi comme les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous que dernièrement, M. John Bolton a carrément eu un coup de gueule tout à fait important vis-à-vis de la CPI pour menacer même des sanctions vis-à-vis de la CPI. Merci. Et de son personnel, alors qu'ils ne sont même pas membres.
Merci.
Donc la République démocratique du Congo a aussi la possibilité, disait, de ce droit et de pouvoir donner son point de vue par rapport au fonctionnement de cette institution.
Elle n'a fait qu'emboîter les pas aux autres.
Ah oui, mais vous avez cité les pays qui ont déjà fait la même chose. Pourquoi ça ne peut pas arriver au Congo? Surtout que nous avons des indices qui peuvent gêner le processus en cours.
Professeur Bob Kouabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Votre analyse par rapport à cette décision de la CPI condamnant Jean-Pierre Bemba à 12 mois d'emprisonnement?
Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce débat. En fait, il faut se rendre compte que la décision était attendue. Était attendue parce que pour la bonne et simple raison que la décision de la confirmation des peines avait déjà été rendue il y a plusieurs semaines. Et donc ici, il restait que la question liée à la peine qui devait être infligée à Jean-Pierre Bemba. Et donc tout ça a été déjà attendu par rapport à la décision qui devait être prise. La seule possibilité qui restait, c'était de savoir plus ou moins est-ce que les juges allaient accepter de suivre le procureur qui demandait 5 ans ou bien est-ce qu'il allait demander de pouvoir suivre une autre voie. Et finalement, le juge a suivi même une autre voie. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tout simplement, c'est que ce pays se retrouve dans une position tout à fait un peu délicate. C'est-à-dire qu'elle est obligée de pouvoir traiter un dossier dans lequel une bonne partie des charges ont déjà été amnistiées ou acquittées, donc ça veut dire ou qui ne comptent plus. Ça veut dire que dans le dossier subordination de témoins, il y a une bonne partie des charges qui étaient dans ce dossier-là qui n'étaient plus d'actualité du fait que la cour d'appel avait déjà annulé, avait déjà acquitté Jean-Pierre Bemba des charges qui étaient retenues contre lui. Et donc, il ne restait que quelques charges pour lesquelles le juge a été très clair à ce sujet dans la lecture donc, du jugement, en disant qu'il fallait absolument faire la part des choses entre, d'une part, le premier procès pour l'acquittement et le deuxième dossier, et où il ne voulait absolument pas les lier. Or, la procureure voulait absolument lier les deux dossiers, et c'est que le juge n'a pas suivi la procureure, et de ce fait, de point de vue, la décision qui a été rendue était déjà attendue, donc ce n'est pas vraiment une surprise par rapport à ce que le juge a décidé. Et certainement que ce n'est pas encore terminé, mais j'imagine que Jean-Pierre Bemba n'a pas pu le faire et qu'il va se retourner contre la CPI pour les 10 ans passés en prison et certainement pour demander des dommages et intérêts à la CPI suite au premier dossier, pas sur le deuxième.
Voilà, donc vous affirmez que c'est la suite logique de la décision qui avait été prise en première instance par la CPI. Et professeur, quelles pourraient être les conséquences d'une telle condamnation sur le plan politique par rapport à M. Jean-Pierre Bemba?
Oui, c'est vraiment une très très bonne question que vous posez. C'est-à-dire dans le cas actuel, je dis bien dans le cas actuel, dans le contexte actuel, ça veut dire par rapport à tout ce qu'on a vu comme procédure, parce que d'une part, personne ne s'attendait à ce que Jean-Pierre Bemba soit libéré, à part quelques-uns qui suivaient le dossier de très 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 près. Et de fait, c'était une surprise. Depuis le deuxième événement, c'est que c'était la rentrée de Jean-Pierre Bemba en RDC. Faisait craindre quand même que Jean-Pierre Bemba gardait toujours une aura assez importante au niveau du Congo, surtout au niveau de Kinshasa, et ce qui veut dire aussi en termes de potentiel électoral la merde d'engager le candidat de la majorité, et aussi le fait que sa candidature représentait ce qu'elle représente, il va de soi que la machine électorale, la machine, je veux dire la machine institutionnelle, ne va pas commencer à accepter un candidat qui va venir pour pouvoir battre le potentiel candidat de la majorité, parce qu'il faut bien se rendre compte que lorsque l'on élimine Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba apparaît, et Jean-Pierre Bemba apparaît comme une alternative crédible qui pourra être en mesure de battre n'importe quel candidat de la majorité. Et d'où la tentative de pouvoir l'éliminer. Alors l'éliminer il y a plus de personnes éliminées à candidat non désiré, c'est-à-dire où on cherche des dossiers sur lesquels le rendre inéligible, ou bien on invalide sa candidature, comme on l'a vu, avec on va expliquer en disant que c'est avec des bricolages juridiques pour essayer de trouver les arguments et pouvoir invalider Jean-Pierre Bemba. Alors, le contexte actuel, il est ce qu'il est, mais si le contexte politique change, je ne doute pas un seul instant que Jean-Pierre Bemba, sa candidature, sera acceptée, tout comme celle d'autres candidats qui ont été déjà exclus. Et donc, son avenir politique dépend, de mon point de vue, du changement du contexte politique en RDC avant le 23 décembre 2018.
Voilà, vous dites si le contexte politique change, mais quelle aurait été, n'est-ce pas, la conséquence sur le dossier Jean-Pierre Bemba à la Cour constitutionnelle si aujourd'hui la CPI avait acquitté le président du MLC?
La CPI ne pouvait pas acquitter aujourd'hui Jean-Pierre Bemba, c'était pas possible, puisque il y avait déjà confirmation de la confirmation. Au niveau de sa culpabilité d'être confirmé. Tout ce qui restait, c'était la peine qui devait être décidée. On ne peut pas décider de l'acquitter au moment où on a déjà confirmé la culpabilité. Si on confirme la culpabilité, c'est déjà un point qui est déjà fait. Il ne restait que décider de la peine. C'est-à-dire que la confirmation était déjà faite, mais il ne restait que la décision de la peine. Quoi. Donc, ce qui était, ça ne change rien sur le fond par rapport au dossier. Mais là où ça change, c'est par rapport à ce que tous les juristes avisés et les profs d'université dans le bon sens ont mis en exergue en disant que la Cour constitutionnelle n'est pas l'organe habilité à pouvoir dire que même si l'honorable dit que la définition dit, ce n'est pas à la Cour constitutionnelle de dire que subordination des témoins égale cas de corruption. Ce n'est pas à la Cour constitutionnelle. Nous tous on le fait. Nous savons les missions de la Cour constitutionnelle. Nous lisons la Constitution. Nous lisons la loi sur la Constitution, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Donc, tout ça est très clair. Ça veut dire, grosso modo, il y a vraiment eu une lecture, entre guillemets, politique de ce fait. En fait, on a cherché un argument pour pouvoir éliminer Jean-Pierre Bemba de la course à la présidence, parce que tout simplement, Jean-Pierre Bemba a présenté un danger par rapport à la stratégie mis en place par la majorité pour être sûr de pouvoir gagner. Alors, je voudrais même réinsister, M. Hérong, sur un fait que dans les systèmes politiques, dans certains systèmes politiques en Europe, depuis des années, même dans les universités africaines, où on fait une analyse comparative. C'est-à-dire, lorsque vous avez un régime qu'on appelle en décompression autoritaire, comme la RDC, ce régime n'organise jamais les élections pour les perdre, organise les élections pour les gagner. Et pour les gagner, il faut être sûr qu'on va éliminer les candidats qui pourrait poser problème à la candidature de celui qui est censé pérenniser le régime.
Merci.
Et donc, on met en place tout un système pour pouvoir arriver à cet objectif-là. C'est
Merci.
Plus simple que ça.
Merci, professeur Jacques Joly. J'annonce que vous venez de faire votre entrée dans ces studios. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Maniema.
Somaïli David Moussassiri depuis la province de Maniema. Je félicite le gouvernement de pouvoir prendre une pareille décision qui semble être bonne, car la CPI étant manipulée par les grandes puissances, la RDC n'a plus rien à faire avec elle. Sinon, ça sera comme quelqu'un qui veut puiser de l'eau à la rivière avec un passoir. En voulant prendre de l'eau, il ne revient qu'avec des petits sticks d'arbre. À nous de respecter et aux autres de manipuler pour leurs intérêts égoïstes. Ce n'est plus la justice. La RDC a pleinement raison de quitter. C'est mieux de rester chez nous, malgré quoi qu'il y ait dû rester là dans le désordre.
Voilà, là il évoque cette menace de la RDC qui voudrait quitter aussi la CPI.
Oui, merci beaucoup. Salut l'honorable Koulou-Mouenze.
Dieudonné-Mouenze.
Mais avant de répondre à notre ami, je voudrais d'abord revenir à un certain nombre d'inexactitudes. Je comprends que notre ami n'est peut-être pas toujours dans ces choses juridiques. D'abord, il parlait d'un certain... C'est M. Mineur qu'il s'agit. Il s'agit bien du professeur Mineur. Et je l'ai entendu définir les infractions. Heureusement, le professeur Bob Kabemba l'a rappelé en recourant au dictionnaire. Non, Non, on ne définit pas les élections, les infractions au dictionnaire. Les infractions se cristallisent dans des dispositions, il y a des éléments constitutifs, et c'est à partir de là qu'on peut parler de telles dispositions. Non, c'est pas. Et vous avez même, vous êtes allé plus loin, vous parlez des similitudes. Non, on ne fait pas l'analogie. Je voudrais vous rappeler que l'article 22, qui est devenu l'article 1er bis de notre code pénal, dit la définition d'un crime et d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. C'est l'article premier de notre code pénal et c'est le fondement de notre système, M. Mwenze. Si vous sortez de cela, ben vous entrez dans la décompression autoritaire et dans les bricolages. C'est pas bon.
Il s'est même posé la question de savoir si vous avez lu toute la décision de la CPI.
Mais je ne fais que ça. Je voudrais lui dire que le recel, par exemple, n'est pas le sel. Et même lorsqu'il y a des éléments communs, le meurtre, lorsque le juge te poursuit pour meurtre, M. Mwenze, il ne te poursuit pas pour assassinat. Il ne te poursuit pas pour coups et blessures volontaires. Ce sont des concepts de droit pénal spécial. Ça ne tombe pas des nues. Ce n'est pas une affaire de commettre des mortels, sinon vous entrez dans l'envoûtement dont on a parlé devant la cour. Donc, il faudra éviter, et je reprends le mot du professeur des bricolages juridiques. Il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux. Et pour vous et pour toute la nation. Alors, autre chose. Nous avons dit. Vous avez, je vous ai suivi. Non, professeur, monsieur Mwenze Kongolo.
Dieudonné Mwenze.
Oui, c'est la même chose peut-être. Alors, oui. Lorsque vous parlez de l'article 168 qu'on vous a certainement donné, les arrêts de la cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais il faut qu'il s'agisse d'une cour qui se rend des arrêts respectueux. Sinon, mais ça ne sert à rien. Lorsque vous prenez notre article 28, il est dit, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. C'est bricolage. Vous m'avez demandé de lire. C'est vrai, si je devais lire cette indigestion qui a été faite devant la cour. Je n'ai pas lu ça parce que ce n'est pas du droit. C'est du bricolage pour justifier, comme on l'a dit, l'élimination des candidats politiques.
Et s'il faut répondre à la préoccupation de l'auditeur ?
Alors, à l'auditeur...
Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner aussi raison au gouvernement congolais ? Parce que depuis longtemps, n'est-ce pas, vous dénoncez cette instrumentalisation de la CPI. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais semble vous rejoindre. Est-ce que vous ne lui donnez pas la raison quand
voilà,
il dit qu'il veut quitter la CPI ?
En fait, je voudrais dire à notre ami de Maniema que nous avons dit que, en fait, c'est sérieux ce que je dis. La République démocratique du Congo, ou du moins la majorité actuelle, n'est allée à la cour que pour des raisons opportunistes. En fait, ils avaient besoin de se débarrasser des gens, parce que je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement responsable puisse faire une note verbale parce que il aurait appris que la cour va rendre un arrêt qui aurait l'impact sur le processus électoral. C'est prendre les juges de la cour pour les juges qu'ils instrumentalisent ici. Non, d'abord pour le gouvernement de notre ami. Jusqu'à présent, nous n'avons même pas été encore notifiés par l'arrêt. Alors que la cour a rendu son arrêt nuitamment, sans même nous inviter. Nous avons suivi ça à la télévision.
Et donc, le concerné n'était pas notifié.
Non, jusqu'à présent.
N'est-ce pas un problème sur le plan des droits?
Mais c'est un grand problème.
Merci.
Parce que nous attendons cet arrêt-là.
Merci.
Parce que je voudrais encore lui dire que aujourd'hui, il n'y a pas simplement le droit interne. Il y a aussi le droit international.
Il
y a les institutions, le Cour africain de droits de l'homme, qui remettent en cause des arrêts mal rendus, comme celui qu'a rendu notre fameuse Cour constitutionnelle.
Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Isangi.
Joseph Bongile Ayakayaka d'Isangi, dans la province de la Tchopo. Le monde est tout entier sait que l'affaire Jean-Pierre Bemba n'est plus judiciaire, plutôt politique. Nous croyons que le verdict de ce lundi n'est qu'une décision politique, soit n'est pas fondée sur les droits. Le souhait du gouvernement congolais de quitter la CPI n'est qu'un jugement de faux fuyant. Il veut quitter la CPI, non parce qu'il n'y a pas de vérité ou de droits, mais plutôt parce que la plupart de ses dirigeants sont poursuivis par les institutions internationales. Pourquoi il ne cherchait pas de quitter la CPI quand quand Bemba était encore condamné, alors que ces irrégularités existaient toujours, à mon humble avis, la menace du retrait des pays africains en général et de la RDC en particulier n'est que la résultante du constat négatif sur la CPI. Je pense qu'avant de quitter la CPI, les États africains doivent d'abord créer des institutions crédibles qui peuvent traiter les affaires africaines.
Honorable Didier de Mondier.
J'ai entendu Monsieur Joseph de Issangui. Je crois qu'il faut l'apaiser en disant que les menaces de la RDC de pouvoir se retirer de la CPI ne datent pas d'aujourd'hui. C'est simplement peut-être un déficit d'information. Ça date de plusieurs années. Déjà il y a 2 ans, et la République démocratique du Congo avait déjà menacé de vouloir se retirer de la CPI. Donc aujourd'hui, les indices dont il est question...
Et quelles étaient les raisons qui avaient été avancées
à
l'époque?
Oui, mais nous sommes toujours dans la même logique de penser qu'il s'agit d'une CPI pour les faibles et non et une CPI pour les forts. Puisqu'on se rend compte que jusque-là, c'est aller à la CPI, vous trouverez, ce sont les Africains qui défilent. Nous n'en voyons pas d'Européens ou des Américains. Et donc, il s'agit d'une chose réelle, un constat réel. Et aujourd'hui...
Et donc là, vous rejoignez le MLC.
Et aujourd'hui, nous n'allons pas dire que c'est par rapport au dossier d'Mbemba, non. Je crois que là, les choses sont claires. Nous disons simplement qu'il s'agit réellement des injonctions que l'on constate et des indices qui pèsent sur le processus dans le sens négatif et qu'il y a lieu de pouvoir prendre nos responsabilités.
Mais le gouvernement dans le communiqué, il n'a pas été formel. Quand il dit qu'il a appris qu'il y aurait, n'est-ce pas, des interférences de certaines puissances dans le travail de la CPI.
Je vous ai donné l'exemple.
Il s'agit de quelles interférences?
Je vous ai donné l'exemple de la lettre de M. Herman Cohen, l'ambassadeur, avant l'acquittement de M. Jean-Pierre Bemba. Lisez cette lettre, vous allez voir, ce sont des injonctions données à la CPI. Et lorsque l'on dit qu'il s'agit de menaces par rapport au dossier de Bemba, non, puisque là, je confirme ce que j'ai entendu du professeur Bob Kabamba, la culpabilité de M. Bemba est déjà confirmée. Et l'appel qui avait été introduit, c'est l'appel par rapport à la peine, simplement. Mais ça ne peut pas dire que c'est l'appel par rapport à l'acquittement. Non, l'infraction est constatée. Il y aurait des indices sérieux qui prouveraient que réellement, il y a eu des actes de subornation avec de l'argent qui aurait quitté la RDC vers certains témoins pour déformer la vérité. Ça, c'est connu. Donc,
il n'appartenait pas à la Cour constitutionnelle de dire qu'il s'agit d'une corruption dès lors que la CPI n'avait pas dit qu'il s'agit d'une corruption.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous n'allons pas revenir sur ce débat, puisque même si le professeur l'a dit, je ne suis pas arrêté aux définitions d'un dictionnaire. Je suis allé jusque très loin. Merci. Avec l'article 70 de Statut de Rome. Je suis allé très loin avec les commentaires de M. Georges par rapport au code pénal. Je suis également allé très loin par rapport à cet article qui revisite le code pénal, l'article 129.
Merci,
professeur. Pour dire qu'il y a cette similitude.
Professeur Bob Kabamba, il y a cette réflexion qui vient de Kikwit à laquelle vous allez réagir.
Gabi, 10 fois, depuis Kikwit dans la province du Kikwit, les déclarations et préjugés du gouvernement congolais constituent la vraie subornation tendant à influencer la décision de la Cour pénale internationale. Vouloir quitter la Cour maintenant, c'est comme ce qu'il dirait celui qui se s'acquise. Peut-être c'est par peur de représailles sur certaines violations semblables aux crimes contre l'humanité suite aux répressions et manifestations pacifiques par les éléments de l'ordre de la République démocratique du Congo.
Professeur Bob Kabamba.
En tout cas, c'est vraiment une très bonne question venant de l'auditeur. Ce qu'il faut dire, c'est que vraiment la RDC, on dirait que la RDC a ce qu'on appelle un devoir d'ingratitude vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Il faut rappeler quand même, quoi. Il ne faut pas quand même commencer à ne pas faire appel de pédagogie. Vous devez savoir que lorsque l'on a arrêté Jean-Pierre Bemba avait quitté le Congo. Et s'il avait quitté le Congo, c'est parce que simplement on était sûr que le dossier au niveau de la Cour pénale internationale allait aboutir à l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. C'est pour ça qu'on a laissé Jean-Pierre Bemba partir en 2008, quand il a quitté le Congo. Pour la bonne et simple raison qu'il y avait déjà une instruction du procureur général de la République, la RDC, qui voulait faire arrêter Jean-Pierre Bemba au Congo, pendant qu'il était réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud. Je vous passe les péripéties. Et ensuite, il faut quand même aussi rappeler que le Congo a aussi beaucoup de dossiers à la Cour pénale internationale. On a résolu le cas des problèmes des Ituri avec les condamnations de Thomas Lubanga, qui a commis des actes ignobles. Maintenant, nous avons Bosco Ntaganda, qui a été rebelle, qui a fait des exactions graves contre l'humanité. Il y a eu des victimes qui ont été bien identifiées. Et là maintenant, alors que tous ces gens-là sont en train d'être poursuivis, la RDC, parce que tout simplement, les décisions qui sont prises risquent d'aller à l'encontre de ce qu'elle pense, malheureusement, elle oublie tout ce que la Cour pénale internationale a fait, non seulement pour le pouvoir de Kinshasa, mais aussi pour les victimes de l'Ituri, les victimes du Nord Kivu qui vont bientôt, le dossier va être bientôt remis. Et tout ça, c'est quand même assez étonnant de voir que par rapport à une opportunité de pouvoir garder le pouvoir, on accuse la CPI de tous les maux, et par là même, on décide de pouvoir quitter. Même si on quitte, de vous à moi, la législation est très claire, même s'ils décident aujourd'hui de quitter, mais ils quitteront pas aujourd'hui, ils quitteront quand? Ils quitteront dans un an, la décision sera effective dans un an. Est-ce que le futur président ou le contexte politique ayant changé, vous pensez que les futures autorités qui seront là vont laisser tomber le fait que la CPI va continuer à enquêter, par exemple, sur ce qui se passe au Kassai, va laisser tomber ce qui s'est passé au sud Kivu et au nord Kivu? Ben que non. Et donc, celui qui va arriver, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir instrumentaliser aussi la CPI, comme les autres ont instrumentalisé la CPI, en mettant en accusation des gens pour lesquels on n'a plus envie d'avoir sur le territoire congolais, sur l'espace politique congolais, et ça sera comme ça. Et donc, je pense vraiment que c'est à l'heure de penser que le Congo va quitter la CPI, et si même s'il le décidait, je vous assure que d'ici un an, on ne sait pas ce qui va arriver, le contexte politique sera changé. Même la Gambie, lorsque votre reporter a parlé de la Gambie, sachez que la Gambie, c'était le président Jammeh qui avait décidé, mais le nouveau président, eh ben, il a renoncé, professeur, il a fait renoncer la décision de quitter la CPI.
Professeur.
Et donc, c'est la même chose pour le Congo.
Professeur Bob, nous sommes à la fin de l'émission, nous allons conclure. Et après cette condamnation de Jean-Pierre Bemba et la menace de la RDC de quitter cette juridiction internationale, comment vous entrevoyez l'avenir de la CPI?
Ben, l'avenir de la CPI, ça ne dépend pas du Congo, l'avenir de la CPI, il y a encore des dossiers qui sont inscrits, et je pense depuis que la pression des autorités africaines sur la CPI commence à s'intéresser à d'autres cas que le cas de l'Afrique. Il y a plusieurs dossiers maintenant qui sont à l'instruction, il y a plusieurs dossiers qui sont maintenant au niveau du bureau du procureur en train d'être suivis pour voir dans quelle mesure pouvoir être continuer à poursuivre d'autres gens que ceux qui sont identifiés au niveau des affaires en cours, c'est-à-dire simplement la RDC en Afrique. Et donc, de mon point de vue, la CPI va continuer et plusieurs pays quand même ont continué.
Merci, professeur.
À confirmer leur appui et même l'Afrique qui avait dit qu'elle allait quitter, mais elle n'a plus quitté.
Merci, professeur Jacques Joly. Votre conclusion, c'est quoi la suite de l'affaire Jean-Pierre Bemba? Est-ce que le MLC va interjeter appel ou...
Nous avons dit que l'affaire Bemba est en instance devant la CPI. Il n'y a pas encore de décision irrévocable.
Et donc, vous envisagez d'interdire
pour le moment, aujourd'hui, il y a une décision de première instance. L'appel est ouvert, la révision est ouverte. Mais il est important que nos amis arrête avec le raccordement frauduleux.
Merci.
Et de bricolage.
J'ai demandé un mot à guise de conclusion. Un mot?
Non, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la République démocratique du Congo est un pays indépendant et nous n'avons pas de devoir de gratitude.
Merci.
Comme je l'entends, puisque nous avons des fils congolais qui ont souffert à cause de cette injustice.
Merci, c'est la fin de cette émission et bonjour de programme sur Radio Capitole.